Les colloques du Collège de France.
Nous devons passer à Sarah Amadori, de laquelle je vais regarder sur ma feuille. Maintenant, vous distribuez encore. Donc, je prends l'occasion de la présenter déjà. Elle est Sarah Amadori, enseigne la littérature française à l'université de Bergamo. Elle a préparé et discuté sa thèse en travaillant sur Yves Bonnefoy, traducteur de Shakespeare. Shakespeare, chez Yves Bonnefoy, est omniprésent et il faut vraiment entrer dans le détail pour saisir le travail que Yves a donné, avoué à Shakespeare. Donc, Bonnefoy, traducteur de Shakespeare, parmi ses publications, il y a aussi le livre Yves Bonnefoy, père et fils de son Shakespeare. C'est très beau, père et fils de son Shakespeare. Alors, Sarah Amadori parlera sur Yves Bonnefoy, poète, traducteur, critique et metteur en scène de son Shakespeare en français et en anglais.
Yves Bonnefoy, grand poète, excellent traducteur, et éminent critique des œuvres qu'il a traduites, a réfléchi tout au long de sa vie à la traduction de la poésie, à ses splendeurs et à ses misères. Il l'a fait dans ses essais, dans ses entretiens, dans les péritextes de ses traductions. Il a aussi résumé cette réflexion dans une prose poétique intitulée précisément « La tâche du traducteur », publiée dans son dernier recueil « Ensemble encore ». Il nous la livre donc de façon synthétique par des images qui, grâce à un mouvement métonymique de condensation caractéristique de son écriture en rêve, cristallisent des moments essentiels de son expérience de traducteur et d'interprète de la tragédie qui a le plus compté pour lui, Hamlet. Nous aimerions donc commencer notre communication en proposant une brève analyse de cette réflexion qui nous permettra de comprendre pourquoi son expérience traduisante a tant compté pour son activité de poète et dans quelle mesure le rapport osmotique qui s'est créé entre les deux activités ne peut pas être négligé par ceux et celles qui ont traduit et traduiront sa poésie en anglais. La tâche du traducteur fait par ailleurs partie d'un ensemble de proses qui forment ce que nous avons appelé un cycle d'Hamlet dans son œuvre. Ces proses sont, comme l'explique le poète, de nouvelles mises en scène d'Hamlet et de nouvelles versions de sa traduction. Non plus correction à apporter à un texte qui va rester inchangé, mais rupture inaugurale peut-être avec le plan où existe jusqu'à présent celui-ci. Dans un deuxième volet de cette communication, nous proposerons une analyse des traductions anglaises de ces proses. Au début de la prose La tâche du traducteur, que vous trouvez en version intégrale au point 1 de votre exemplier, un jeune traducteur plonge dans un abîme qui allégorise l'inconscient créateur du poète et qui se présente comme une eau poétique renouvelée par l'expérience de traduction. Ce jeune traducteur est un alter ego de Bonnefoy, dont la subjectivité se manifeste de façon explicite par le passage de la troisième à la première personne du singulier à partir de la ligne 15. Pendant cette plongée, ce traducteur retrouve des personnages de la pièce qu'il a traduite, et notamment Hamlet, décrit d'abord comme un étudiant qui est assis là, le front sur ses cahiers, les bras autour de la tête, endormi, lignes 8 et 9. Hamlet, dans la réflexion critique que Bonnefoy a consacrée à la tragédie, est une allégorie critique de la poésie française du XIXe siècle, par laquelle le poète résume ses réserves à l'égard de la notion des poésies pures de Mallarmé. L'étudiant du début de la prose, penché sur ses livres, est par conséquent non seulement l'intellectuel élisabétain, mais aussi, par analogie, celui du poème The Raven de Poe, traduit en français par deux grands poètes traducteurs toujours présents à l'esprit de Bonnefoy, Baudelaire et Mallarmé. Cette image fortement évocatrice tend ainsi à produire une coïncidence entre, je cite Bonnefoy, la terrasse funèbre d'Elsénor, la chambre d'ébène où un corbeau vint répéter Nevermore et celle la plus nocturne où jeta le dé Igiture. Or, la traduction de la poésie anglaise et la réflexion consacrée à la tragédie d'Hamlet ont profondément marqué le parcours poétique de Mallarmé, De façon similaire, Bonnefoy, qui a retraduit 5 fois la tragédie et consacré à celle-ci une vaste critique poétique, l'a aussi traduite au sens large. La traduction au sens large, comme le poète l'explique, est une écoute par œuvre interposée qui produit une dissémination de l'œuvre traduite dans celle du traducteur. La tâche du traducteur est donc pour Bonnefoy de traduire au sens large, à savoir de faire revivre la poésie de l'autre poète par une traduction qui ne produit pas une simple correspondance interlinguistique, mais qui produit plutôt une véritable correspondance existentielle. Une traduction donc qui active un dialogue en constant devenir, renouvelant la naissance de la parole poétique tout au long des siècles. Cette façon de concevoir l'expérience poétique et traduisante est proche de celle de Mallarmé et de Baudelaire, qui ont, à leur tour, traduit au sens large, en écrivant le sonnet à Nyx et la chambre double. Ces deux poèmes sont, selon Bonnefoy, chacun à sa manière, une méditation du Corbeau d'Edgar Allan Poe, leur maître en poésie. La prose, la tâche du traducteur, révèle tout son sens non seulement si on la lit comme une méditation métapoétique consacrée à la notion des traductions au sens large, mais aussi sachant qu'elle est une réponse à la préface que Benjamin a écrite pour sa traduction des tableaux parisiens de Baudelaire, intitulée à son tour « Die Aufgabe des Übersetzers ». Bonnefoy revient sur ce texte dans sa prose. En effet, son traducteur est jeune, car la traduction poétique, comme le suggère Benjamin, est en mesure de rajeunir le texte source, d'en assurer la survie et la post-maturation. C'est précisément cet objectif que Bonnefoy s'est donné en traduisant l'œuvre de Shakespeare. En outre, le jeune traducteur de sa prose n'arrive pas à toucher de ses mains la grande épave qui allégorise à la ligne 36 la tragédie d'Hamlet. Cette image renvoie au passage de l'essai de Benjamin où celui-ci affirme que la traduction poétique ne touche l'original qu'en un point infiniment petit du sens pour suivre ensuite sa marche selon la loi de fidélité dans la liberté de mouvement langagier. En effet, la traduction est pour Benjamin d'abord et surtout un travail infini sur la forme poétique qui assure la renaissance de la poésie et devient la possibilité d'avoir accès à un langage pur, de plus en plus universel et ontologiquement puissant. Or, le contact avec la poésie de Shakespeare a révélé à Bonnefoy les potentialités prosodiques de l'iambe. Cette cellule rythmique est un étymon prosodique que Bonnefoy a voulu accueillir dans sa parole, à commencer par ses traductions des drames de Shakespeare. Rogers, l'un de ses traducteurs en anglais, loue par exemple sa capacité surprenante à reproduire les rythmes iambiques des drames shakespeariens par le recours à un alexandrin que Tello a appelé boiteux. L'inscription de l'hésitation des iambes dans ses vers a ainsi déterminé ce que Bonnefoy a perçu comme une évolution de sa parole poétique, la rendant plus à même de dire à la fois l'un et le multiple, l'absolu et la contingence. Cette tension est allégorisée dans la prose que nous sommes en train d'examiner par l'image de la spirale descendante à la ligne 19. Celle-ci emblématise les mouvements métonymiques dont se montre capable une parole poétique en mesure de s'ouvrir à la vérité de la finitude. En effet, Bonnefoy a traduit Shakespeare avec le projet, comme il le dit, de déceler les insuffisances de sa propre langue et d'en développer les potentialités signifiantes, en la fécondant par des rythmes nouveaux. Il a donc traduit Mallarméennement, comme le confirme Berman, un traductologue dont la réflexion a hérité de celle de Benjamin et qui est proche de celle de Bonnefoy. En effet, je le cite, « Traduire Mallarméennement vaut dire traduire de telle manière que la traduction poétique rémunère le défaut des langues. C'est traduire comme Mallarmé avait poétisé sous l'impulsion massive de l'anglais. » C'est donc grâce à l'expérience traduisante des drames de Shakespeare que sa poésie, comme nous le lisons dans cette prose à la ligne 31, a pu commencer à briller vaguement comme font les pierres. Et c'est là, dès son recueil de 1965, « Pierre écrite ». Par des traductions qui réalisent ce que Berman appelle la visée éthique et poétique du traduire, Berman a donc su trouver une nouvelle forme, Bonnefoy a donc su trouver une nouvelle forme de langage pur, post-benhaminien, plus universel, qu'un résultat d'une expérience d'ouverture à une altérité linguistique et poétique. Ce renouvellement a été possible parce que la traduction a non seulement fait revivre la poésie shakespearienne en l'actualisant, mais a également produit une véritable dissolution de la matière shakespearienne dans la poésie de Bonnefoy. La tâche du traducteur, seine Aufgabe, s'est donc révélée pour lui une forme d'Auflösung, à savoir une dissolution de la poésie de l'autre dans son œuvre, qu'il a fécondée et renouvelée, tant au niveau prosodique que thématique. En effet, les personnages shakespeariens des drames qu'il a traduits, devenus des allégories poétiques dans ses essais de critique littéraire, reviennent dans ses poèmes ainsi que dans les proses du cycle d'Hamlet. Cette dissémination confirme que traduire signifie pour Bonnefoy faire renaître la poésie des profondeurs d'un inconscient créateur, fécondé par un dialogue constamment renouvelé avec Shakespeare. Le sens attribué par le poète au verbe traduire, dans la phrase qui clôture la prose examinée, le confirme. La traduction de la poésie de Yeats, Keats, Donne, outre celle de Shakespeare, et la connaissance excellente de Bonnefoy de la langue anglaise, ont non seulement été centrales dans son expérience poétique, mais ils ont également favorisé un échange fructueux et très intense avec les nombreux traducteurs britanniques ou américains de son œuvre. Sa réception dans les pays anglophones est d'une vastité étonnante et témoigne, comme le constate Rudolph dans sa préface à New and Selected Poems, que Bonnefoy est un grand poète nécessaire dont l'écriture, transcendant les barrières immédiates de la langue, s'adresse de façon directe à tout le monde. En analysant les différents types de paratextes qui accompagnent une sélection des traductions en anglais de ses ouvrages, ainsi que quelques réflexions critiques élaborées par ses traducteurs, il est possible de mettre en évidence quels sont les défis, mais aussi les bonheurs, de traduire Bonnefoy en anglais. Au niveau prosodique, aussi bien Grosols que Rogers relèvent la présence perceptible dans ses vers de cellules rythmiques de type iambique. Outre la tendance du poète, quand il lit ses poèmes à voix haute, à avoir recours à une diction iambique. Cela n'est pas qu'inciter ses traducteurs à retrouver ce rythme dans leur langue, où l'iambe s'inscrit naturellement dans les vers. La vaste connaissance de Bonnefoy de la poésie anglaise a également influencé son imaginaire poétique. Cette influence se révèle une ressource pour ceux et celles qui traduisent son œuvre en anglais. Rogers, par exemple, a privilégié le mot « boat » pour traduire « barque » centrale dans le recueil « Les planches courbes » en raison de son occurrence dans les vers inoubliables du prélude de Wordsworth. Bonnefoy a approuvé ce choix, ayant toujours considéré ce poète comme un proche. De façon similaire, Braic, dans une note de la traductrice, explique que pour traduire le mot « chevêche » du poème « L'heure présente », elle a choisi le mot « owlet » parce que ce mot rappelle l'oiseau qui voltige dans le poème « The Idiot Boy » de Wordsworth. Si Frost et Dickinson restent des références capitales pour la traduction des débuts et fins de la neige, Yeats est un autre poète que Bonnefoy a beaucoup aimé et traduit. Le dialogue traductif entre les deux poètes, et dont témoigne le volume 45 poèmes suivi de la résurrection, devient encore une fois pour Rogers une source dans laquelle puiser. L'influence de Shakespeare sur la prosodie et sur l'imaginaire poétique de Bonnefoy devient de plus en plus évidente dans les recueils les plus récents, c'est-à-dire ceux du XXIe siècle. Il suffit de penser à l'émergence de la forme sonnée dans la langue chaîne des langres, l'heure présente ou ensemble encore. Or, Bonnefoy a réfléchi à la forme fixe en traduisant Pétrarque, mais surtout en traduisant et retraduisant l'ensemble des sonnets de Shakespeare. En lisant attentivement les sonnets d'ensemble La musique et le souvenir, on relève aisément leur proximité thématique avec la poésie shakespearienne. Rogers retrouve par exemple dans les sonnets 6 de cette section un écho des sonnets 8 et 128 de Shakespeare. Dans les sonnets 7, au point 2 de votre exemplier, nous relevons quant à nous des allusions à la tragédie d'Hamlet. En effet, l'adieu trois fois redit du deuxième vers du premier quatrain est celui du vieux Hamlet qui revient du royaume des morts pour parler à son fils. Le quatrième vers, nous n'assumons néant ou l'absolu, résume l'hésitation d'Hamlet entre le to be et le not to be. L'emploi du nous indique par ailleurs que Bonnefoy a partagé l'hésitation du prince danois. La figure féminine en pleurs et qui chantait du quatrain suivant est enfin Ophélie, dont la folie et l'errance chantante sont pour Bonnefoy l'une des cimes de la poésie universelle. Son chant est ainsi lié par analogie aux images de la rose, de la neige et de l'enfant, qui indiquent la naissance possible d'une parole poétique authentique dans la partie finale du sonnet. Or, dans la lecture critique de la tragédie élaborée par Bonnefoy, Ophélie allégorise l'avènement d'une poésie, d'une parole poétique salvifique, capable de s'ouvrir à la vérité de la finitude. Si Hamlet savait abandonner ses chimères et l'aimer en tant qu'être réel, il renoncerait à la readiness, à cette acceptation du non-sens de tout qui le voue à la mort. Il pourrait donc être sauvé et devenir poète. Cependant, Hamlet n'est pas capable de cet amour. Voilà pourquoi il est pour Bonnefoy l'allégorie du poète qui reste victime de ses leurres. Shakespeare, contrairement à son personnage, a su dépasser la forme d'une poésie inauthentique pour ouvrir sa parole à une poésie de théâtre véritablement transitive qui sait dire la vérité de l'existence. L'amour malheureux d'Hamlet et Ophélie et son dépassement nécessaire deviennent ainsi un principe dialectique et métapoétique fondateur dans l'imaginaire de Bonnefoy et peuvent résumer toute l'entreprise poétique shakespearienne. Le corps de la tragédie des deux personnages est ainsi indissociable de leur capacité à être qu'au suprême astre d'amour. S'y reste un, ceux qui se séparent, comme l'affirme Sévère du poème « The Phoenix and the Turtle » traduit par Bonnefoy, toujours au point 2 de votre exemplier. Remarquons que « Phoenix et Colombe » est sa seule traduction de Shakespeare que Bonnefoy a voulu insérer dans la Pléiade. La raison est d'après nous que ce poème thématise, par le biais de deux oiseaux qui allégorisent l'homme et la femme, la mort d'un amour idéalisé, en mesure de faire renaître de ses cendres un être nouveau. Celui-ci est ainsi, comme les sonnets 7 le confirment, l'enfant qu'a désiré l'esprit de siècle en siècle et que le chant a fait naître. Autrement dit, une parole poétique capable de traverser la mort, de renaître de ses cendres et de vivre éternellement comme le phénix. Rogers relève une autre allusion à Phénix et Colombe en traduisant « Et quoi encore ?» du recueil « Ensemble encore » au point 3 de l'exemplier. Sa traduction du mot « tortue » montre bien que les traducteurs de l'œuvre de Bonnefoy doivent savoir remonter aux sources du dialogue poétique que le poète a instauré avec Shakespeare. En effet, Rogers explique que ce mot peut être traduit en anglais aussi bien par « turtle » que par « tortoise ». Comme la créature dont parle ce texte apparaît sur la terre plutôt que dans la mer, elle devrait donc être appelée « tortoise » en anglais. Pourtant, dans ces lignes, la tortue a des ailes, ce qui incite Rogers à penser que Bonnefoy fait allusion ici au terme « turtle dove » dans un jeu des mots interlinguistiques par lequel le poète renvoie de façon cryptique à Phénix et Colombe. C'est précisément pour mettre en évidence la façon dont la traduction de Shakespeare ne cesse d'inspirer la création poétique de Bonnefoy que Rogers a donc choisi de traduire dans ce cas « tortue » par « turtle », comme il l'explique dans la citation à la page 2 de votre exemplier. Nous proposons maintenant une analyse traductologique d'un corpus de prose poétique qui forme ce que nous avons appelé le cycle d'Hamlet dans l'œuvre de Bonnefoy. Le choix d'un tel corpus est dû d'une part à sa cohérence thématique, car toutes ces proses sont de nouvelles mises en scène de la tragédie d'Hamlet, ou en tout cas des méditations sur celle-ci. Dans tous ces récits en rêve, Bonnefoy revit son expérience de traducteur et d'interprète d'Hamlet en se présentant à la fois comme un spectateur, un acteur-interprète, un metteur en scène ou un traducteur de la pièce. D'autre part, le choix d'examiner un corpus de prose permet de réfléchir à plusieurs problèmes traductifs posés par l'écriture de Bonnefoy, déjà signalés par ses traducteurs, notamment par Nothomb. Ces problèmes sont la richesse rhétorique et la syntaxe très complexe de ses phrases, ainsi que l'emploi d'une terminologie cristallisant sa riche pensée poétique et philosophique. Qu'il écrive en vers ou en prose, en effet, Bonnefoy a écrit un poète et un philosophe, comme le confirme Romer dans la citation 4 de votre exemplier. Les longues citations de la 4 à la 8 ne seront pas lues, mais résumées. Nous pourrons éventuellement y revenir pendant la discussion.
Parce qu'il faut regarder un peu le temps.
Oui.
Donc, la citation dans les détails serait un peu...
Non, mais pas du tout. Les citations ne seront absolument pas lues. Ne vous inquiétez pas. Ça va durer 30 minutes, c'est promis.
D'accord.
Les proses qui forment notre corpus sont les suivantes. Allez, allez encore. Première ébauche de mise en scène d'Hamlet. Hamlet en montagne, tirée de l'heure présente. Duo dans Hamlet de Lady Gaga, lettre à Shakespeare de l'hésitation d'Hamlet et la décision de Shakespeare, la tâche du traducteur d'Ensemble encore. Toutes ces proses, sauf Allez, allez encore, ont été traduites par Rogers. Braic, en revanche, a traduit Allez, allez encore, première ébauche de mise en scène d'Hamlet et Hamlet en montagne. Dans le cas de ces deux dernières proses, notre analyse aura donc la chance de bénéficier de deux versions traduites, celle de Rogers et celle de Braic. Or, leurs positions traductives respectives sont différentes et l'analyse des péritextes de leur traduction le révèle. Pour Braic, il est essentiel d'être fidèle à la lettre, au sens bermanien, de l'œuvre de Bonnefoy, par une traduction qui respecte et reproduise attentivement les rythmes de sa parole poétique, comme la citation 5 de votre exemplier le confirme. Rogers, quant à lui, revendique une relative liberté de son approche traduisante, en disant s'inspirer de la façon dont Bonnefoy a traduit Shakespeare et de la vaste réflexion que le poète a consacrée à la traduction poétique. Il insiste également sur la primauté qu'il accorde à la traduction de l'esprit au détriment de la lettre des textes de Bonnefoy, comme l'atteste la citation 6 de votre exemplier. Les corpus examinés invitent d'abord à réfléchir aux problèmes posés par la traduction de la notion de parole. Bonnefoy lui-même en était bien conscient, comme la citation 7 le prouve. Ces mots ne peuvent pas être traduits par des équivalents tels que speech ou utterance, selon les poètes. En effet, il a une connotation sémiotique qui résume un sens bâti de façon progressive et organique dans l'ensemble de l'œuvre et qui assure les remplissements d'un signifié en signifiant cible. Autrement dit, le mot « parole », comme d'autres mots-concepts tels que « présence » ou « évidence », est un terme resémantisé par le poète. Il lui permet de mener à bien sa bataille contre le conceptuel et de définir de façon spécifique ce que la poésie est pour lui. Les traducteurs ont la tâche de préserver la valeur heuristique des mots ayant une connotation sémiotique, en le signalant au lecteur, par exemple par des néologismes, des calques ou des emprunts, et en lui offrant ainsi un univers terminologique ayant la même cohérence et la même puissance novatrice que dans la langue source. Rogers choisit de varier les choix lexicaux pour rendre le terme « parole » en avouant néanmoins avoir une prédilection pour « speech », comme le confirme la citation 8 de votre exemplier. Ainsi, dans sa « Letter to Shakespeare », dont trois extraits sont proposés au point 9, le traducteur a recours à trois expressions différentes pour traduire le mot « parole », à savoir « language, speech et words », ce qui tend, à notre avis, à affaiblir sa connotation sémiotique. En effet, la variation lexicale liée à la traduction du mot « parole » est un exemple de ce que Michonik, dans sa poétique de traduire, a appelé « non-concordance ». Celle-ci se vérifie quand une même unité de sens est traduite par plusieurs unités de sens dans la langue d'arrivée, ce qui détruit, selon ces traductologues, le rythme sémantique du texte source. Le mot « word » au singulier avec une minuscule, pour éviter toute référence théologique à « the word of God », a été par ailleurs conseillé à Braic par Bonnefoy lui-même pour traduire les vers du poème « L'heure présente » que vous trouvez sur votre exemplier au point 10. Remarquons aussi la suggestion d'employer le déterminant possessif « our ». Nous savons que pour bonne foi, la parole poétique ne peut que jaillir d'une expérience de partage qui active un mouvement d'anamnèse permettant au poète de retrouver, dans les profondeurs de son être, une vérité plus authentique car partagée. Ainsi, c'est le déterminant possessif qui, dans ce cas, met en évidence la connotation sémiotique indissociable chez Bonnefoy de l'emploi de parole au sens de parole poétique. Dans notre corpus de prose, et plus précisément dans la première ébauche de mise en scène d'Hamlet, le mot « word » associé à un autre déterminant, l'article défini, est à nouveau choisi par Braic, tandis que Rogers a encore recours à « words » au pluriel. L'exemple au point 11 de votre exemplier le montre. Sur le plan lexical, aussi bien Braic que Rogers signalent le problème traductif posé par la recherche de la part de Bonnefoy d'un lexique épuré et simple, qui reproduit, qui rend sa poésie un véritable étranger au sens bermanien pour la poésie anglaise. D'autre part, et de façon presque complémentaire, la parole poétique de Bonnefoy s'ouvre à la complexité du réel par une syntaxe très riche en subordonnées, en acolutes, incises, s'éloignant de la grande prose classique française. Elle témoigne plutôt, Bonnefoy l'avoue, d'une sympathie de sa part pour la dialectique baroque de l'un et du multiple. Sur ces deux points, plusieurs exemples dans notre corpus montrent la diversité de l'approche traduisante des deux traducteurs. Leurs deux versions de l'extrait de la prose Hamlet en montagne, présentées au point 12, sont éclairantes à ces propos. En effet, sur les plans syntaxiques, Braic reproduit attentivement le mouvement rythmique des phrases de Bonnefoy, sans craindre que sa complexité puisse déranger la lecture en anglais. Rogers, quant à lui, tend à simplifier de façon systématique le mouvement syntaxique activé par l'écriture du poète. Les périodes plus longues deviennent des phrases indépendantes, les éléments sont déplacés à l'intérieur de la phrase et réorganisés selon un ordre standard. Les mises en relief sont parfois supprimées. Le recours à ce que Berman définirait une rationalisation systématique des phrases réorganise ainsi le rythme syntaxique de ces textes, comme on peut le voir en lisant les deux passages en gras dans l'exemple 12. Au niveau lexical, Braic s'efforce de respecter la simplicité et la transparence caractéristiques de l'écriture de Bonnefoy. Rogers recherche plutôt une richesse et une variété lexicale qui tend à rapprocher la parole de Bonnefoy de ce que le poète a appelé le miroir de la poésie anglaise. Ainsi, dans l'exemple au point 12, on remarquera la prédilection de Braic pour les mots qui attestent l'origine commune du français et de l'anglais par l'intermédiaire du latin, ayant donc une sonorité similaire dans les deux langues. Son choix du mot « rock » pour « roche », là où Rogers a préféré l'hyponyme « boulders », le confirme, tout comme le choix du mot « gorge » pour rendre le français « gouffre », là où Rogers a choisi « abyss ». Au niveau rhétorique, dans ce passage, nous avons relevé la présence d'une métaphore filée qui s'inscrit dans le cadre d'un animisme caractéristique de la poésie de Bonnefoy. Par cette métaphore, le poète compare la foule à un fleuve traversant la montagne. De façon symétrique, la montagne est anthropomorphisée. Braic non seulement reproduit cette richesse iconique par ses choix traductifs, mais elle l'intensifie. Elle traduit littéralement « courant » par « flood », Rogers par « multitude », mais quelques personnes, de façon plus libre, par « trickle of people ». Ce dernier choix reprend et dilate la métaphore filée du texte source. De façon similaire, la personnification de la montagne est explicitée, car Braic traduit « grande roche » par « looming rock faces ». La traductrice ne s'éloigne donc pas du texte de départ que pour en augmenter le potentiel poétique, en prenant toujours comme modèle la lettre, comme le dirait Berman, de celui-ci. Un dernier point sur lequel les positions de Braic et de Rogers sont éloignées l'une de l'autre concerne la ponctuation. Celle-ci a pour Bonnefoy une valeur poétique spécifique. Elle doit donc être préservée, selon Braic, même quand elle peut être dérangeante en anglais. Pour Rogers, au contraire, un certain emploi de la ponctuation, et notamment la surabondance des points d'exclamation, pose problème au traducteur, qui est donc censé la modifier. Les trois exemples au point 13 de votre exemplier, le premier traduit par Braic, le deuxième par Rogers, le troisième par les deux, montre bien la volonté de la traductrice de restituer la ponctuation et la syntaxe expressive du texte source, tandis que dans sa version, Rogers réorganise et adapte la ponctuation et la syntaxe. Venons-en aux conclusions. L'analyse comparative des proses du cycle d'Hamlet montre que les traductions de Braic sont, comme le dirait Berman, poétiques et éthiques. En effet, elles reproduisent attentivement les rythmes du texte source afin de faire découvrir au lecteur la voix poétique de Bonnefoy, dans son unicité et sa spécificité. Dans les versions de Rogers, qui sont très respectueuses de l'esprit du texte source, c'est plutôt l'auteur qui est amené au lecteur, comme le dirait Schleiermacher. Ces choix témoignent d'une volonté de remettre en dialogue la poésie de Bonnefoy avec la tradition poétique anglaise, qui, comme nous l'avons vu, est une source essentielle dans laquelle puiser. Les traditions de Rogers et de Braic répondent ainsi à deux projets de traduction différents mais cohérents, fruits de leur connaissance approfondie de la poétique de Bonnefoy. Traduire ensemble est la plus grande forme d'amitié, répétait souvent le poète, comme Rogers l'atteste. Les traducteurs qui ont eu la chance de traduire son œuvre dès son vivant témoignent du fait que l'activité traduisante était nourrie par un échange constant et par un rapport de profonde amitié avec le poète. En effet, la traduction a été pour lui une expérience intensément poétique, précisément en tant que moment de dialogue et de connaissance de l'autre. Bonnefoy l'a toujours prouvé par sa vie ainsi que par ses traductions. Son exemple lumineux est toujours présent à l'esprit de ses traducteurs et nous avons voulu le suivre dans notre propre traduction de l'hésitation d'Hamlet et la décision de Shakespeare. Et je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.